Nous voilà réunis donc pour trois quarts d'heure pour une table ronde historique pour réfléchir avec Philippe Collin qui donc a publié Le Fantôme de Pétain également en podcast, sorti le même jour, même moment. Voilà. Je viens de me le faire confirmer. Donc une coédition Flammarion France Inter. Romain Slocombe, J'étais le collabo Sadorski, paru chez Robert Laffont. Votre série, c'est le sixième. Et Laurent Wörth, qui publie La Madeleine et le Papillon chez Armand Collin, qui est là juste devant nous. Donc l'histoire avec un grand H, c'est le matériau par excellence pour tous les écrivains, qu'ils soient historiens ou non, pour raconter des histoires au pluriel. C'est un vivier sans fin, une terre d'accueil contre laquelle s'adosser, puiser à sa source et parfois laisser libre cours à son imagination. Loin d'être toujours opposés, l'histoire avec un grand H et la fiction peuvent s'entraider, mais jusqu'où aller? Et est-on encore historien lorsqu'on a recours à la fiction? Là, je demanderai conseil à Laurent Wörth, qui est à ma gauche, puisque lui est le grand historien de cette table. Comment ne pas trahir les faits historiques tout en aidant à la compréhension d'un événement? Alors, j'ai avec moi un romancier et scénariste, Romain Slocombe, un historien, Laurent Wörth, et un journaliste, auteur, producteur de radio, Philippe Collin, et qui n'est pas très éloigné non plus de l'histoire, puisque vous avez rappelé au début de cet ouvrage que vous aussi, vous avez fait des études de lettres et d'histoire. Donc, ça vous travaille aussi. Oui. Voilà, cette idée de ne pas trahir, d'aller à la source, de confronter les faits. Et vous allez nous raconter aussi, justement, que dans ce podcast, vous avez réussi à dénicher quelques sons inédits. Donc, vos ouvrages ont en commun de traiter l'histoire à travers une vaste enquête reposant sur des entretiens et d'autre part, un essai et un polar. Je commence avec vous, Laurent Wörth. Vous êtes interrogé sur l'éternel recommencement que caractérise l'histoire de l'humanité. Alors, vaste question qui traite aussi de philosophie. Et vous avez vous-même enseigné pendant toute votre vie l'histoire-géographie. Vous êtes professeur agrégé dans des collèges, des lycées, également à Sciences Po Paris. Votre père, Pierre Wörth était également professeur d'histoire. Donc l'histoire chez vous, c'est une histoire de famille.
Oui, c'est une transmission, c'est héréditaire.
C'était hors de question de faire autre chose, ou est-ce que vous aviez quand même un petit peu d'autres voies qui s'ouvraient à vous?
Disons qu'il y a d'autres choses aussi qui m'ont amené vers l'histoire. Mon père d'ailleurs était géographe, parce qu'à son époque, si vous n'aviez pas fait de latin...
On choisissait
si vous n'aviez pas fait de latin, vous ne pouviez pas faire des études d'histoire. Or mon père est un enfant du peuple, issu de la méritocratie républicaine. Il n'y avait même pas le bac, il deviendra agrégé de géographie, mais il n'avait pas le bac. Il avait ce qu'on appelle le brevet supérieur. Il avait fait l'école primaire supérieure.
Il devait certainement être beaucoup plus difficile que le baccalauréat d'aujourd'hui.
Voilà, je ne porterai pas de jugement puisque j'appartiens à l'institution d'une certaine façon. Mais voilà. Donc lui était géographe et j'ai dédié d'ailleurs ma thèse à mon père, à ce géographe qui m'a fait aimer l'histoire, à cet Alsacien qui m'a fait aimer l'Auvergne, hein, puisqu'il s'était installé finalement en Auvergne. Mais il y a d'autres choses qui m'ont... Et ça pourra d'ailleurs servir de transition. Les romans historiques m'ont
vous ont fait aimer la matière,
l'histoire et la bande dessinée. Hein, on parlait de Tintin et Hergé. M'ont attiré vers l'histoire. Alors, si vous voulez, moi, je suis l'historien institutionnel d'une certaine façon, hein, puisque j'y ai fait toute ma carrière, mais je ne suis pas là, surtout pas là pour opposer l'histoire aux médias et l'histoire à la fiction. On a dit déjà un mot, je dois dire d'abord tout le bien que je pense. J'ai pas malheureusement le temps de finir le livre, mais les podcasts sur Pétain sont absolument remarquables. Avec
je vous remercie.
Voilà, la participation de 12 historiens parmi les meilleurs, dont Pascal Horry d'ailleurs, hein, qui a préfacé mon livre. Le roman et la bande dessinée, Monsieur le Commandant, sont absolument irréprochable sur le plan historique. Ce qui est important, si vous faites de la fiction, c'est de ne pas falsifier l'histoire. Pour l'historien, le péché mortel, c'est la falsification. Quand je dis falsification, c'est par exemple le négationnisme, hein, nier le génocide des Juifs, c'est un crime contre l'histoire. Les assassins de la mémoire, comme le disait Pierre Vidal-Naquet, je vais tenter de dire... ça, c'est inqualifiable. Ce que fait Poutine actuellement, qui fait la guerre à coup d'histoire et qui réécrit l'histoire à sa sauce, c'est un crime contre l'histoire. Mais ce que vous faites, messieurs, dans les médias et dans vos romans et bandes dessinées, c'est pas un crime contre l'histoire. À partir du moment où on ne falsifie pas l'histoire, où on ne réécrit pas l'histoire dans tel ou tel but, hein, de manipulation, moi je dois dire, je suis un très grand consommateur de... documentaire historique, il y a des documentaires absolument remarquables à la télévision. Le documentaire de Nicolas Vert sur le Goulag, par exemple, qui a été diffusé sur Arte, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et aussi, un très grand consommateur de fiction historique. Là, je suis en train de lire un livre d'Emmanuel Favier avec laquelle on doit animer une rencontre dans le courant du mois de novembre, pas très loin d'ici, qui s'appelle « La part des cendres », où elle mêle l'histoire et la fiction. Et je dois dire, chapeau au niveau de la documentation historique. Et d'autant plus consommateur de fiction et de bande dessinée historique que j'ai fait partie pendant 10 ans, et même plus, du jury de la bande dessinée historique des rendez-vous de l'histoire de Blois que présidait Pascal Horry. Donc j'ai une collection de BD, je sais pas, j'ai peut-être 360 BD dans mon... Voilà, c'est... donc voilà.
Et quel est le regard du professeur d'histoire géo que vous avez été pendant tant d'années, justement sur la BD, la fiction, qui est, quand elle est bien faite, hein, s'entend dire, qu'elle ne falsifie pas la réalité, peut aider peut-être à aimer cette matière qui pouvait sembler un peu ardue auparavant?
Écoutez, moi j'ai commencé ma carrière dans des classes qu'on appelait à l'époque les classes LDG et les CPPN. Bon, en cinquième à LDG, il fallait que je leur fasse passer l'histoire du Moyen-Âge. J'ai été obligé de recourir à la BD pour leur faire comprendre ce qu'était le Moyen-Âge. Bon, j'ai recouru à d'autres choses qui seraient aujourd'hui peut-être pas autorisées par l'éducation nationale. J'aurais fait faire une partie de la route du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en traversant le Lot à gué avec une corde qu'on avait tendue à travers le Lot. Aujourd'hui, je me ferais peut-être taper sur les doigts par les autorités académiques, mais j'ai utilisé la BD aussi pour faire comprendre à des élèves ce qu'avait été l'emprise japonaise sur la Mandchourie, hein, la fameuse dans Tintin, le Lotus bleu, c'est extraordinaire, quoi. On a des... Donc voilà, moi je suis pas du tout
vous n'êtes pas conformiste et vous sortez des sentiers voilà. battus.
Je suis un peu à l'image de Pascal Horry qui vient d'être élu Académie française, oui, mais qui sort lui aussi des sentiers battus. Et je pense qu'il ne faut pas opposer. Alors évidemment, on peut trouver, comme sur Internet, dans les médias, des choses qui sont moins recommandables. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a effectivement des choses qui sont beaucoup moins recommandables que le travail remarquable que fait Philippe Collin. Mais l'opposer systématiquement, non.
Ça... Alors, votre essai est justement un exemple assez concret de l'histoire qui peut être à la fois amusante et très sérieuse, puisque vous mettez face à face des événements anciens et l'histoire contemporaine. Alors
l'interrogation m'est venue d'abord avec la pandémie de Covid. Il y a un événement qui avait été passé pendant des années sous silence, du fait du poids de la Première Guerre mondiale, des morts pour la patrie, etc., c'est la grippe espagnole. Or, aujourd'hui, il y a des estimations qui disent que la grippe espagnole aurait fait entre 50 et 100 millions de morts, soit, si on prend la fourchette haute, 5 fois plus que la Première Guerre mondiale. La Covid a fait remonter cet événement à la surface. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les chaînes d'information en continu. Bon, maintenant, les généraux ont remplacé les médecins, mais on avait des épidémiologistes et des médecins. Donc, ça a été le déclic. Puis, à partir de là, je me suis intéressé à d'autres événements. L'invasion du Capitole par les Trumpistes, qui a fait remonter à la surface, moins en France, mais énormément aux États-Unis, en Angleterre et au Canada, la précédente invasion du Capitole en 1814, le Capitole et Washington,
plus
d'ailleurs,
qu'une invasion.
Ont été pris.
Oui. Destruction aussi des
oui,
bâtiments.
Invasion et incendie.
C'est mal terminé. Ah,
voilà. Mais aux États-Unis, tous les médias en ont parlé. Ça n'est pas la première fois. Voilà. Donc j'ai pris comme ça 5 événements. Et bon, je ne vais pas
On va les citer, citer rapidement. Il y avait la Commune de 1871. Alors, les
Gilets jaunes qui ont fait ressurgir, et les Nuits debout qui ont fait ressurgir la Commune de Paris. Hein,
mais aussi à l'étranger, Occupy Wall Street.
Occupy Wall Street, etc.
Donc, en toute Espagne, une série d'occupations
de l'espace public qui ont fait ressurgir le souvenir de la Commune en se référant plus ou moins à la Commune. Et puis, mais chaque fois, enfin, dans le livre, j'explique bien que ce sont des modalités de résurgence qui sont différentes. Ça n'est pas systématique. Et ça ne veut pas dire, si vous voulez, que le passé se répète. Ça veut dire qu'on vit dans ce qu'on appelle, ce qu'on appelle un régime d'historicité qui vit sur ce qu'un philosophe qui s'appelle François Hartog appelle le présentisme. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup en étant branché sur le présent et en essayant de chercher les références dans le passé. Parfois, maladroite, parce que l'histoire ne se répète jamais. Quelqu'un a dit que l'histoire bégayait, c'est pas une répétition. Pascal Horry aime à dire que on enseigne l'histoire, mais l'histoire n'enseigne rien. Quand on voit que, excusez-moi, les conneries recommencent à nos portes et qu'on risque une guerre mondiale, on se dit, mais comment on peut être fou à ce point? Oui, l'histoire, on enseigne l'histoire, mais l'histoire n'enseigne rien.
N'enseigne rien, mais Pascal Horry dit aussi l'objet de l'histoire, ce n'est pas le passé, c'est le
tout
temps.
À fait. Tout à fait.
Et ça, c'est
tout
vraiment l'objet du livre.
Voilà, tout à fait. Je l'ai appelé la Madeleine en référence à Proust, et le papillon en référence à l'effet papillon du météorologue Conrad Lorenz, comment un battement d'aile au Mexique peut provoquer une tornade au Texas. Mmh. C'est cette double dimension espace-temps qui est la dimension de l'historien, du géographe pour l'espace, mais l'espace-temps, c'est la dimension de l'historien. Moi, je suis entièrement d'accord avec Pascal Horry. Le travail de l'historien, c'est un travail sur le temps, le rapport au temps.
Et Laurent Werth, quel est l'intérêt de cette confrontation? Et j'imagine qu'il y en avait plein d'autres. Pourquoi vous avez choisi ces cinq-là? C'est justement par rapport aux médias, le traitement des médias aussi.
Mais ça nous dit beaucoup sur notre façon, nous, d'aborder le passé. Je prends le dernier événement que je traite, ce sont les migrations actuelles, ce qu'on appelle la crise migratoire. On oublie, et on a oublié, qu'en Europe, après la Première Guerre mondiale, il y a eu des gigantesques migrations. Les Russes qui ont fui la Révolution et la guerre civile, les Arméniens rescapés du génocide qui ont fui l'Arménie, et ça a été finalement pendant très longtemps oublié. C'est à ce moment-là qu'on a inventé le droit humanitaire des réfugiés. Un certain Nansen, qui était un explorateur polaire, a inventé le fameux passeport Nansen qui va permettre de donner à ces gens qui avaient été privés de leur nationalité par Lénine et par Mustafa Kemal, va leur possibilité d'avoir des papiers. Bon, on a oublié ça. Et on en a finalement très peu reparlé au moment de la crise migratoire. Pourquoi ? Parce que finalement, ces vagues migratoires, l'Europe les a parfaitement digérées. Et on a inventé, à la faveur de ces vagues migratoires, le droit des réfugiés. Or, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a tout un courant de l'opinion, malheureusement, qui nie ce droit des réfugiés et qui finalement, avec les fameuses théories fumeuses du grand emplacement, prétendent que les immigrés, par définition, ne sont pas assimilables ou sont une menace. Et je pense que ça en dit long sur notre société qu'on ne parle pas de ces migrations-là. Alors c'est vrai qu'au moment des migrations des Ukrainiens, on a reparlé dans les médias un petit peu des migrations de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même eu 13,5 millions déplacés en Europe. Mais personne n'a parlé des migrations de l'après-Première Guerre mondiale, ou très peu. Et là, en fait, le phénomène de résurgence que j'analyse dans le livre, c'est un phénomène de résurgence, je dirais, à géométrie, voire à géographie variable, puisque pour le Capitole, on en a surtout parlé dans les pays anglo-saxons, mais pas ailleurs. Mais dans le cas des migrations, moi, je parle même d'une non-résurgence. Pourquoi ne reparle-t-on pas, ou très peu, ou avec des clichés? On dit, ah oui, les Russes, c'était les chauffeurs de taxi parisiens. Ce qui est ce qui est finalement l'arbre qui cache la forêt. L'immense majorité des réfugiés russes, il y a eu quelques princes chauffeurs de taxi, évidemment, ça c'est le cliché, mais ça a été Boulogne-Billancourt. Ils ont travaillé chez Renault et il se trouve qu'on avait besoin de bras à ce moment-là. Renault a été très content de pouvoir recourir à cette main-d'œuvre. Mais là, c'est vraiment un exemple de non-résurgence. C'est pour ça que, si vous voulez, dans le livre, c'est des cas de figure vraiment différents. Quant au cas de la Commune de Paris, moi, je qualifie ça d'une répétition du geste. Plus qu'une véritable résurgence, on répète le geste de l'occupation de l'espace public, qui renvoie à la Commune de Paris, mais qui peut renvoyer beaucoup plus loin. Vous savez que le mot de barricade, ça vient de barrique, et que les premières barricades à Paris, c'était en 1588, au moment de la Ligue, et ça a été fait avec des barriques. Dans le quartier des marchands de vin, on a fait ça avec des barriques qu'on a remplies, tas de choses, et le mot de barricade, ça vient de barrique. Eh bien, les gilets jaunes, les nuits debout, Occupy Wall Street, etc., et je serais même tenté de dire la place Tahrir au Caire, les indignados en Espagne, ils ont répété ce geste de l'appropriation de l'espace public et de l'occupation de l'espace public. Voilà. Mais je ne veux pas trop monopoliser la parole.
Non, mais c'est passionnant de vous écouter. Et en fait, ce qui a motivé votre livre La Madeleine et le Papillon, je pense que c'est aussi une des motivations du livre de Philippe Collin, qui est donc un livre écrit avec 12 personnes. Vous avez recueilli la parole de 12 historiens, Éric Allary, Stéphane Audouin-Rousseau, Fabrice Boutillon, Olivier Dard, Laurent Joly, Nicolas Offenstadt, Pascal Horry, Denis Péchanski, Yves Pourchet, Henri Rousseau, Bénédicte Vergès-Chaignon et Annette Vivorca, pour ne pas en oublier. Donc ma première question, ça a été du choix. Comment les avez-vous choisis ? Parce que Laurent Woehrle disait que c'était parmi les plus grands historiens d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est parce qu'ils étaient aussi disponibles ? Est-ce que vous vouliez absolument eux ?
Alors, j'ai commencé par les appeler chacun d'entre eux pour leur proposer le projet qui m'importait dans une époque un peu compliquée. Je raconte ça parce que lorsque j'étais étudiant en histoire en 1997, j'ai soutenu un mémoire de maîtrise sur l'épuration des collaborateurs à la Libération. Il faut savoir que le moment où je soutiens mon mémoire, Maurice Papon est jugé. Maurice Papon est jugé en tant que fonctionnaire français, qui a été donc condamné à complicité pour crime contre l'humanité. C'est pas un Allemand, hein. C'est un Français. C'est-à-dire qu'en fait, je dis ça parce que c'était à peu près figé. Les choses étaient à peu près claires. Chirac avait reconnu la responsabilité de l'État dans la déportation des Juifs en France. Et donc, on jugeait un Français, fonctionnaire de la République, de l'État français, pardon, qui avait donc participé à cette infamie nationale. Et puis voilà que depuis 2-3 ans, on tente de réhabiliter le maréchal Pétain, de l'extraire de cette faillite qui est le régime de Vichy, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais qui sont un peu longues à développer ce soir. Néanmoins, c'est la connivence, hein, supposée entre Pétain et De Gaulle qui permet l'union des droites, etc., etc. Or, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans pour qu'on en arrive là ? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'on en arrive là ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'on puisse entendre dans des médias nationaux par un leader politique que Philippe Pétain a sauvé des Juifs français ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Alors je me suis dit, je vais appeler les 12 plus grands à mes yeux avec des points de vue contradictoires, parce que c'est en ça que le casting est intéressant, c'est que je voulais faire entendre aux auditeurs et aux lecteurs qu'on peut débattre en histoire. Ce n'est pas interdit. Dans un cadre scientifique...
Ce n'est pas une science figée.
Exactement. Donc on peut très bien avoir des débats au sein d'un process scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a par exemple, pour le chapitre 2, deux historiens français de renom, Nicolas Offenstadt, Stéphane Audouin-Rousseau. Ils ont deux points de vue contradictoires sur Philippe Pétain durant la Première Guerre mondiale. Ça n'empêche pas qu'ils ne vont pas réhabiliter ni l'un ni l'autre Philippe Pétain, mais on a le droit de discuter, on peut avoir des points de vue contradictoires. Donc le casting, il a été pensé comme ça, il a été pensé de se dire, attention, ce n'est pas un podcast à sens unique qui vient dire « Ouh, le maréchal Pétain, le méchant grand loup ». C'est pas du tout ça, c'était de se dire « On peut débattre et donc on va mettre en place des points de vue qui s'opposent parfois mais qui respectent les règles de l'histoire ». C'est important parce qu'on est accusé par le camp d'en face, ceux qui voudraient falsifier l'histoire, d'être la bien-pensance, d'être pensée à sens unique, d'être les détenteurs d'une vérité. Il y en aurait donc une autre, hein. parfois je me suis fait accuser justement dans des déplacements autour du livre en province, dans des librairies, de d'être un menteur parce que je ne disais pas la vraie vérité. Donc là aussi, faillite quelque part de nous tous. Voilà. Donc ça m'importait qu'on puisse entendre des points de vue contradictoires. Donc le casting, il a été pensé comme ça. Et donc ces 12-là incarnent 12 manières de faire de l'histoire un peu différentes. Voilà.
Quand on arrive au dernier chapitre, alors je vais revenir après
je vous en prie.
À la biographie de Pétain, mais on voit bien, on sent bien que la conclusion n'est pas exactement la même pour tous, c'est-à-dire que la question qui taraude tout le livre, qui aussi préside peut-être à cette question de faillite, où est-ce qu'il y a eu un problème, pourquoi est-ce que Pétain aujourd'hui pourrait éventuellement intéresser encore les jeunes, est-ce que... ce qu'il a fait durant la Première Guerre mondiale peut éclipser son rôle durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous posez la question de 70 ans après sa mort, le fantôme de Philippe Pétain, est-ce qu'il hante encore aujourd'hui la scène politique française, la scène historique française, et puis est-ce qu'il est encore connu parmi les jeunes? Et là c'est vrai qu'on a des réponses extrêmement différentes, puisque vous avez un Nicolas Hoffenstadt qui va dire que sa présence est encore forte, et à côté Yves Pourchet qui dit qu'on ne comprend pas aujourd'hui ce que représente Pétain.
Oui, c'était l'intérêt du coup d'ailleurs de ce casting. Philippe Pétain, il occupe une place extrêmement compliquée dans l'inconscient collectif français pour une raison assez simple qu'explique très bien Stéphane Audouin Rousseau. Il dit que finalement dans nos familles, dans toutes nos familles françaises, la Première Guerre mondiale occupe une place centrale, pratiquement plus mythique, entre guillemets, que la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'elle a touché toutes nos familles, c'est 1 400 000 morts, 400 000 disparus. C'est une génération d'hommes qui disparaît dans la Première Guerre mondiale avec un front qui est extrêmement difficile. Et dans ce mythe, il y a un second mythe qui vient se greffer dessus, qui est Philippe Pétain. Philippe Pétain, réputé vainqueur
plus
de Verdun.
Plus humain que les autres, alors que vous démontez ça.
Oui, en fait, il y a deux choses.
Au moment des mutineries.
Il est réputé vainqueur de Verdun. J'aime bien ce mot réputé parce qu'il est vainqueur de quoi? C'est pas une bataille gagnée. Il a tenu la ligne.
C'est défensive.
Donc, voilà, donc il est réputé vainqueur de Verdun, mais c'est pas rien, hein, Verdun, parce que c'est la terre de France. Hein. On se bat pour récupérer l'Alsace-Moselle. Donc un homme qui peut tenir la terre de France participe au mythe d'une génération qu'on a éduquée à récupérer l'Alsace-Moselle. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est le plus humain de nos chefs. Parce qu'en effet, au printemps 1917, pour réagir aux mutineries qui occupent l'armée française, Philippe Pétain comprend quelque chose d'important, c'est qu'il n'est pas question que de politique dans ces mutineries, il est question d'un pacte social rompu entre les poilus et leurs officiers. Et Philippe Pétain a l'intelligence, il faut le dire, et la sensibilité de comprendre que si on veut continuer le combat, il faut renouer le pacte. Et donc là, Philippe Pétain décide de mettre en place des mesures importantes pour le poilu français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le repos Pétain. C'est-à-dire qu'on a à l'arrière du front des conditions de repos plus agréables. On a l'augmentation des rations de nourriture, augmentation des permissions, raccourcissement des durées de trajet, etc., etc. Ce qui fait que, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que durant cette Première Guerre mondiale, un poilu écrit à peu près une lettre par jour en moyenne. Ce qui fait qu'au printemps 1917, partout en France, c'est des centaines de milliers de lettres hein, dont je parle, arrivent à Orléans, à Brive, à Toulouse, à Brest, des lettres qui disent « il y a là un général qui prend soin de moi ». Et qu'y a-t-il de plus précieux en 1917 que votre père, votre fils, votre frère qui est au front dans le nord de la France? C'est-à-dire que soudain, il y a là un homme qui prend soin du sang des Français. Je dis le mot « sang » volontairement pour comprendre la dimension nationaliste de Philippe Pétain. Mais ce qui se joue là, c'est extrêmement important. C'est que Philippe Pétain ne sort pas uniquement vainqueur militaire de la Première Guerre mondiale. Il sort comme un homme qui va être donc réputé comme le plus humain de nos chefs. Et évidemment, ce qui se joue en juillet 1940, c'est le retour de cette affaire. C'est qu'à la fois, il est vainqueur des Allemands, mais en plus, c'est l'homme qui va nous sortir de la panade. Et ayez bien en tête pour finir, que 1 400 000 morts et 400 000 disparus, c'est que c'est une génération d'hommes qui disparaît. Ça veut dire que les enfants qui sortent de la Première Guerre mondiale, qui ont 6 ans, 8 ans, 10 ans, ils grandissent face à leur grand-père, pas face à leur père, parce que cette génération a été supprimée. Donc on a un entre-deux-guerres d'enfants face à leur grand-père. Mais qui est le grand-père des grands-pères? C'est bien sûr Philippe Pétain. Je rappelle que quand Philippe Pétain prend les pleins pouvoirs en juillet 40, il a 84 ans. 84 ans. C'est un très vieux monsieur.
Et donc, pourtant, il n'a jamais été père.
Il n'a jamais été père. C'est-à-dire, c'est un...
Il s'est marié extrêmement tard.
Exactement.
Vous prenez le temps de...
C'est important de comprendre qui est Philippe Pétain pour toutes ces raisons.
Ces incohérences, un peu, par rapport à travail, famille, patrie. Lui-même n'a pas montré l'exemple.
Mais c'est vrai qu'il n'a pas connu sa mère. Elle est morte quand il avait 18 mois. Il a été chassé du foyer parce que la seconde épouse du père de Philippe Pétain a chassé les enfants du premier lit. Donc, pas de mère, pas de famille. Il est élevé dans une famille où c'est son oncle qui est prêtre. Donc, même pas de famille recomposée. Il grandit face à un homme qui est prêtre. Vous voyez, donc c'est extrêmement important. Travail, famille, patrie. La famille de Philippe Pétain, c'est l'armée. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que Philippe Pétain, son référent, ce n'est pas le vote, c'est ordre, injonction, je réponds aux ordres. C'est extrêmement important parce que, en faisant ce choix des armes, Philippe Pétain va se priver du droit de vote français. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 1872, la République décide que les militaires n'auront plus le droit de vote. Donc Philippe Pétain n'a jamais voté de sa vie, puisqu'en 1945, il est condamné, entre autres, à l'indignité nationale, ça le confisque ses droits civiques. Donc il aurait pu voter en 1946, par exemple, et il n'a jamais voté. Donc l'expérience démocratique de Philippe Pétain est nulle. La seule expérience qu'il a, c'est l'armée, c'est sa famille, c'est son référent. Donc vous voyez, aller chercher qui est Philippe Pétain avant ce que nous connaissons tous, juin-juillet 40, ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Et je finirai là-dessus, c'est que ce dont on ne se doute pas assez, c'est qu'à la fin des années 30, Philippe Pétain n'est pas marqué à l'extrême droite. Philippe Pétain est un militaire, nationaliste, réactionnaire sans doute, mais il est fréquentable. À gauche, on pense que c'est le plus républicain des maréchaux et des généraux. C'est-à-dire que c'est une haute figure morale, Philippe Pétain. Il incarne ce que la France compte de plus prestigieux. Je le dis parce qu'on a souvent fait écran depuis, parce que c'est une telle faillite ce qui nous est arrivé. C'est la République qui s'est suicidée, hein, qu'on a du mal à accepter ça. Mais il faut l'entendre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce projet qui était podcast et livre. Voilà.
Oui, on pourrait parler aussi de la relation équivoque et qui a bien démarré entre Général de Gaulle et Pétain et qui ensuite s'est abîmée. Mais je vais donner quand même un petit peu la parole à Romain Slocombe avant de revenir peut-être vers vous. Romain Slocombe, vous êtes multicasquette, écrivain, réalisateur, traducteur, illustrateur, auteur de bande dessinée et photographe. Vous êtes aussi un écrivain extrêmement prolifique et votre personnage de Léonce Sadorski vous suit depuis 6 épisodes, donc ce 6e tome, si on peut dire, j'étais le collabo, Léon Sadorski, revient sur ce personnage qui au départ avait été créé comme un personnage secondaire ou périphérique dès 2011.
Oui, il apparaît dans un de mes romans précédents qui s'appelait, le livre s'appelait Monsieur le Commandant, une histoire de lettre de dénonciation, donc on est déjà dans cette atmosphère délétère de l'occupation. Je cherchais à l'époque un policier ripou qui pourrait avoir un rôle de maître chanteur à la fin du livre. J'avais cherché un petit peu sur internet et j'avais vu qu'il y avait un personnage qu'on surnommait le mangeur de juifs et qui était spécialisé dans les arrestations de juifs dans les gares. À l'époque surtout, ils essayaient de passer la ligne de démarcation et beaucoup de policiers français étaient chargés justement de repérer les juifs au faciès, au comportement, etc. Ce type, j'ai su après, je me suis rendu compte qu'il avait laissé beaucoup plus de traces que je ne pensais. Plusieurs historiens ont parlé de lui. Laurent Joly a fait un livre où il publiait le rapport que Sadowski avait laissé et qui est conservé aux Archives nationales. Et je me suis dit que ce personnage valait beaucoup plus, en fait, pour un romancier. Était vraiment un personnage tout à fait étonnant. Parce qu'il me permettait à moi de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire un anti-Maigret. Parce que bon, j'adore Simenon, j'adore ce genre de littérature noire, et j'ai toujours regretté que Simenon, qui a parlé de la guerre et de l'occupation dans certains de ses livres, mais plutôt dans ses romans durs, comme le Clan des Ostendés ou le célèbre Le Train qui a été adapté au cinéma, mais bien que sous l'occupation, Simenon a vendu très très cher d'ailleurs les droits de Maigret, et que plusieurs Maigret ont été tournés au cinéma et plusieurs ont été écrits, on ne voit pratiquement jamais jamais de soldats allemands dans le décor. Et ça, je regrettais parce que je me disais que ce serait formidable quand même un policier qui ferait des enquêtes et qui serait confronté à toute cette ambiguïté de la police française sous Vichy. Et sinon, ne l'ayant pas fait, les éditions Robert Laffont me demandant un personnage, je me suis dit que c'était l'occasion. Et donc, partant de ce véritable personnage de Louis Sadowski, je l'ai un peu transformé en ce Léon Sadowski, qui est un personnage de fiction, bien sûr, mais qui est très, très ancré dans la réalité. Et mes amis ici, historiens...
Est-ce que vous avez eu l'impression de faire œuvre d'historien, justement, en allant aux archives nationales, en vous fondant sur des vérités? D'ailleurs, vous prévenez au début du roman que vous avez trouvé un nombre de procès-verbaux et de détails aussi sur les prisons, sur cette épuration sauvage, qui sont vraiment réels.
Oui, dans le dernier, et dans que je parle de l'épuration ou que je parle dans les épisodes précédents de d'attentats ayant eu lieu, d'attentats de la résistance, de traque de ce que l'on a appelé le groupe Manouchian, et aussi de toute la Shoah française menée en partie par la police française. Tout ça, oui, je pense que le lecteur a droit à ce qu'on ne lui raconte pas des bêtises, et surtout quand il s'agit de sujets graves quand même. Et donc j'ai essayé de moi-même, pour moi-même, d'apprendre des choses que je ne connaissais pas, et je me suis rendu compte que les historiens, eux, connaissent les archives, mais les romanciers les fréquentent malheureusement assez peu. Et donc conseillé par quelques historiens que j'avais contactés, on m'a un peu appris où aller, etc. Et surtout aux archives de la police, aux archives de la préfecture de police qui sont en toute proche banlieue parisienne, on peut y aller en métro, c'est vraiment pas compliqué, je recommanderais aux romanciers. Et là, j'ai guidé un petit peu par certains incidents ou faits qui étaient rapportés dans des livres écrits par des historiens. J'ai demandé à voir ces documents, j'ai complété par d'autres documents que je demandais et qu'on m'apportait, et je me suis dit que c'était aussi cet univers administratif qui est assez kafkaïen. J'ai pensé que c'était, surtout quand on parle par exemple de la bureaucratie française confrontée au problème des juifs qui vont finir à Drancy puis à Auschwitz, là il y avait tout un univers de documents qui sinistre et fascinant, qui me permettait de faire un cadre aussi, puis aussi de ne pas raconter n'importe quoi. Par exemple, beaucoup d'arrestations de résistants ou d'attentats commis par la résistance ont laissé des traces dans les livres d'histoire totalement déformées, parce que les historiens de l'époque n'avaient pas accès à ces archives et se sont souvent contentés de rapports issus de la résistance où en fait ces attentats étaient déformés, alors que les archives de la préfecture de police gardent, ce sont des policiers, il y a des services techniques de la police, on sait exactement le nombre de victimes, le nombre de douilles qui ont été ramassées par terre, etc. Donc c'est ce cadre que j'ai voulu donner à mon personnage de fiction.
Alors parlons un peu de Drancy, justement, parce que dans ce livre-là, donc le sixième de la série, Léon Sadowski est arrêté juste après donc la victoire. L'épuration sauvage commence, il est molesté, il est quand même plus que molesté puisqu'il perd un œil, et il arrive à s'échapper et il est repris et il est conduit dans une prison tenue par les milices communistes et qui... officie et ont les mêmes méthodes finalement que quasiment la Gestapo peu de temps avant. Et c'est vrai que cette partie du livre est assez violente. Et à Drancy, à l'inverse, donc on a un centre de tri avec des collabos, des personnes qui ont été arrêtées, qu'on accuse en attente de procès. Donc tout est inversé. Et c'est assez surprenant de voir à quel point la violence est terrible. Enfin... Là, c'est vraiment une partie du livre qui vous importait de montrer, preuve à l'appui avec les archives, jusqu'où c'était allé, cette épuration.
Alors, c'est un sujet très, très délicat, parce que on court toujours le risque de se faire accuser de faire un procès à la résistance, ce qui n'est évidemment pas mon but. Mais je voulais montrer comment, dans une période très étrange de latence, où il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'instruction, il y a des services divers, mais il n'y a plus de... La police ne travaille pas normalement, les juges non plus. Tout à coup... ce sont des gens armés, surarmés, qui tout à coup ont le pouvoir de vie et de mort sur des gens, et où on règle des comptes. Bien, c'est bien français d'ailleurs de régler des comptes. Et il y a notamment quelques centres de torture qui sont absolument terrifiants. Et ça, je l'ai découvert. En fait, un historien, enfin deux historiens, Jean-Marc Berlière et Franck Liègre, avaient fait un livre sur les séquestrations arbitraires à la Libération. Et j'étais assez horrifié par ce qu'ils racontaient. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je vérifie. Et en fait, toutes les affaires, les corps repêchés dans la Seine, etc., le mode d'exécution qui rappelle beaucoup les tchéquistes staliniens, d'ailleurs, c'est la balle dans la nuque, ça a été absolument... j'ai retrouvé tous les procès-verbaux des divers commissaires de banlieue, les banlieues de Paris où on a repêché les corps, les souvenirs de certains détenus aussi de cette fameuse institut dentaire qui était le principal centre de détention, d'exécution et de torture, enfin de tabassage surtout, mais ça finissait souvent quand même par une rafale de mitraillettes. C'est un endroit qui existe toujours encore à Paris. C'est toujours un institut dentaire d'ailleurs, dans tout près de la place d'Italie, dans le 13e, l'institut Georges Eastman. J'ai même visité, j'ai fait des photos, etc. C'était un cadre absolument étonnant pour un romancier, parce que les conditions de séquestration étaient très étranges. Comme il n'y avait pas des cellules, ce n'était pas une prison, on a forcé les environ 130 personnes prisonnières, deux tiers d'hommes, un tiers de femmes, à rester assis, immobiles, sans le droit de parler, nourris deux repas, un à 17h, l'autre vers 11h du soir, dans une salle de projection, donc sur des gradins, une très belle salle qui date des années 30, et gardée par des types armés de mitraillettes, et avec un poème naïf promettant le pire sort au collabo, écrit au tableau noir à la craie. Donc pour un romancier, c'est un lieu absolument étonnant, évidemment emblématique de cette période surréaliste, et qui pouvait... À la fois, bon, il y a des gens, des types de la Gestapo, du service Berger, par exemple, responsable de la mort des résistants, des jeunes résistants à la cascade du Bois de Boulogne, qui faisaient partie des détenus. Et en même temps, il y avait également une concierge dont la fille avait couché avec un milicien et qui avait mauvaise réputation dans le quartier. Et puis, il y avait une femme, une malheureuse, qui était résistante en plus et dont le mari avait été lynché avenue d'Italie, parce qu'il observait la progression de l'armée Leclerc avec une jumelle, et des voisins ont cru qu'il avait un fusil à lunettes, enfin qu'il avait un fusil qu'il tirait, etc. Les gens sont montés, l'ont porté et l'ont jeté sous les chenilles d'un tank qui passait dans la rue. Et cette femme, elle, a été internée et exécutée d'une rafale de mitraillette. Donc c'est ce genre, ce sont ces destins totalement... ces injustices énormes, évidemment, que j'ai voulu raconter. Et donc, il y a un effet, évidemment, un peu de choc et de sidération sur le lecteur.
Laurent Wörth, l'historien que vous êtes, est-ce que vous pouvez appliquer ce que vous parlez, le principe de résurgence à l'épuration sauvage? Parce que ce sont des cas qui se répètent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des guerres, ou des guerres civiles en particulier, l'envie de vengeance, l'envie de œil pour œil, dent pour dent.
Bon, c'est effectivement quelque chose qui peut être récurrent. Moi, j'étais très sensible à ce que vous avez dit, parce que mon grand-père était résistant dans le Cantal, et j'ai retrouvé, quand on trouve ce genre de choses dans les archives, c'est une vraie émotion. J'ai trouvé la lettre de dénonciation de mon grand-père, et j'ai trouvé ensuite les pièces qui montraient comment l'auteur de la lettre de dénonciation, qui était un milicien qui avait commis beaucoup d'autres forfaits, a été arrêté par les résistants, jugé et fusillé par les gendarmes dans la foulée, quoi. Donc j'ai été très sensible à ce que vous avez dit. Alors effectivement, ça c'est quelque chose que l'on trouve dans toutes ces circonstances critiques, qu'on a du mal, nous, dans cette Europe qui n'a pas connu véritablement la guerre sur son sol depuis 1945. Il y a eu des guerres délocalisées, hein, la France, il y a eu les guerres d'Algérie, etc. Mais il y a eu des épisodes dramatiques, je pense aux noyades des Algériens dans la Seine en 1961.
Oui, absolument.
Voilà. Mais on n'a pas connu la guerre sur notre sol, et là, on est en train de connaître cette résurgence donc de la guerre sur notre sol, avec tous les risques de violence qui sont induits et qui sont souvent inévitables. Hein. Vous avez parlé de... Il y a aussi le problème des femmes tondues à la libération.
Oui, qui,
hein,
qui, est, qui est l'aspect le plus connu, en fait, voilà. De cette épuration.
Mais il y a eu, effectivement, à côté de ça. Mais ça, je pense que c'est... et en ce sens, je crois que dans tous les contextes de guerre civile, ce sont des choses qui reviennent. Mais moi, j'ai été très, très sensible aussi à ce que vous avez dit, Philippe, sur la nécessité du débat. C'est-à-dire que... je pense que il faut effectivement. C'est pour ça que j'ai employé à dessein le terme de négationniste et non pas de révisionniste pour parler des gens qui nient le génocide des Juifs ou le génocide arménien. Pourquoi ? Parce que l'histoire est une révision permanente. C'est un débat permanent. Alors bon, je connais très bien les positions de Nicolas Hoffenstadt et de Audouin Rousseau. En fait, ils ont au départ ces deux écoles historiques, hein, l'école du consentement et l'école de la contrainte, qui font qu'ils ont ce point de vue différent. Mais les historiens doivent débattre. Ce qu'ils n'ont, d'une certaine façon, ce qu'un historien n'a pas le droit de faire, c'est de falsifier l'histoire. Nicolas Vert, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est un bon ami, vient de publier un tract Gallimard qui s'appelle « Poutine, historien en chef ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce tract Gallimard, ça se lit très vite, hein. Ça vaut 3 euros et quelques. Je vous le recommande vivement. Et vous voyez comment, à partir de l'histoire, on peut faire la guerre. Hein, parce que Poutine justifie sa guerre par l'histoire. L'Ukraine n'a jamais existé, les Ukrainiens et les Russes, c'est la même chose, ou du moins il y a des Russes qui sont plus russes que les autres, c'est les grands Russes, les Ukrainiens ils appellent les petits Russes, etc., etc. Il a fait la guerre sur l'histoire et sur la falsification de l'histoire, puisqu'il y a une véritable inversion. Hein. Il y a une véritable inversion. Les Ukrainiens ont été... Alors, tous les Ukrainiens sont des nazis. Bon, certes, il y a eu Stepan Bandera et des Ukrainiens qui ont collaboré. Il y a eu des collaborateurs en France aussi, hein, mais il y a eu des partisans ukrainiens. Donc, c'est cette falsification que l'histoire, qui est une véritable négation de l'histoire, et qui est le crime majeur en histoire. Et moi, je constate dans vos travaux respectifs, vous avez fait des recherches formidables hein, pour Léon Sadorski et vous pour Pétain, qu'on peut très bien, avec la fiction et des émissions dans les médias, à partir du moment où on respecte cette procédure de vérité qu'est l'histoire, parce que l'histoire ne prétend pas dire la vérité, mais l'histoire doit respecter une procédure de vérité. Cette procédure de vérité qu'est l'histoire, quand on la respecte, eh bien on peut se permettre effectivement d'en faire
Laurent
Wörth, le cadre.
Je rebondis sur votre mot la différence entre négationnisme et révisionnisme pour donner la dernière question à Philippe Collin, parce qu'il y avait quand même un chapitre qui m'a porté sur lequel il m'a porté de revenir, c'était la question de la juive en 40, on a souvent dit que Pétain ne savait pas, qu'il n'était pas allé au-delà de ce que les Allemands avaient demandé, qu'il avait au contraire permis, ça aurait été pire sans lui. Et là-dessus, on a un peu révisé, mais pas dans son sens.
On a révisé notamment grâce à une preuve historique, grâce à une archive retrouvée par Serge Klarsfeld en 2011, ce qui n'est pas rien. Il y a un statut des Juifs qui est promulgué par l'État français le 4 octobre 1940. Alors, première chose, statut des Juifs qui n'est pas demandé par les Allemands. Hein. C'est sur désir et volonté de l'entourage de Philippe Pétain et Philippe Pétain lui-même que la société française veut exclure les mauvais Français de cette société, dont évidemment au premier chef les Juifs. Donc, premier statut qui n'est pas sous la pression allemande. Mais surtout... On avait beaucoup entendu dire que, notamment grâce à Charles Pomaret, qui est donc le ministre de l'Intérieur de Vichy, des petits carnets de notes qu'il prenait au jour le jour. Et on avait dans ces carnets une amorce de preuves qui laissait penser que durant le Conseil des ministres qui évoquait ce statut, Philippe Pétain aurait durci de sa main le statut des Juifs. Mais ça restait une preuve dans un carnet d'un ministre proche de Pétain, certes, mais qu'est-ce que ça vaut ? Or, en 2011, on a retrouvé le document officiel, d'ailleurs on le publie dans le livre, qui est un document annoté, en effet, de la main de Philippe Pétain, c'est son écriture, il n'y a aucun doute, où, en effet, Philippe Pétain demande à ce qu'on durcisse le statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il est question d'exclure des fonctionnaires juifs. Donc d'ailleurs, au passage, fonctionnaires juifs français, hein, puisqu'on parle de fonctionnaires. D'exclure les juifs français de l'éducation nationale et de la magistrature. Et notamment, Raphaël Alibert, qui était le ministre de la Justice, se dit, bon, pour l'éducation nationale, par exemple, on va seulement épurer, entre mille guillemets, la hiérarchie. Inspection d'académie, proviseurs, principaux de collège. Et Philippe Pétain dit non. Ah non, 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 non. On va exclure tous les juifs de toute l'éducation nationale. Je ne veux pas un instituteur qui va mettre une graine anti-française dans la tête des jeunes écoliers français. Et donc c'est Philippe Pétain qui écrit, pareil pour la magistrature, qui écrit, on le voit très bien sur le statut, qui demande à ce que on exclue totalement les juifs français de la société française. Alors, ce n'est pas un antisémitisme rédempteur, ce n'est pas un antisémitisme nazi qui demanderait une extermination des juifs pour survivre. Hein. Philippe Pétain n'est pas dans ce registre-là. Lui, il pense qu'il faut exclure, comme pratiquement c'est un rapport médical au corps social français. Il y aurait un virus pour faire, qui serait juif, et il faut donc traiter le problème. Et donc, il faut exclure du corps social les juifs français, donc on les met dans des camps administratifs, de rétention et de purge. Je voudrais juste finir sur deux choses importantes. On a souvent dit ensuite que on ne savait pas finalement ce qui se passait dès 42 pour les juifs français. Deux choses extrêmement importantes. Je vous encourage à lire le journal de guerre de Paul Morand, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Personnage que moi j'exècre assez fortement, mais c'est assez intéressant ce journal. Pour deux raisons. À partir de juillet 1942, Paul Morand est dans le cabinet de Pierre Laval, donc très proche du pouvoir. Le 30 juillet 1942, Paul Morand écrit que, sachant ce qu'il se passe pour les Juifs, il ne trouvera plus le sommeil. Premier indice. Deuxième indice, janvier 1943. Paul Morand écrit, le 12 janvier, le mot de chambre à gaz. Je le répète et je le dis parce que on parle de gens très proches de Pierre Laval, donc très proches de Philippe Pétain. La France de Vichy est au courant. Elle sait les conséquences que provoque la collaboration dans la déportation des juifs français et des juifs de France. Vous voyez, c'est pas ni une sénilité, ni une ignorance. Les choses sont sues, elles sont véritablement sues, et lorsque Pierre Laval donne les 3000 enfants de la rave du Veldiv, parce que c'est lui qui les donne, ce ne sont pas les Allemands. C'est Pierre Laval qui ne sait pas quoi faire des enfants, et qui se dit, on ne va pas séparer les enfants des parents. Mais il sait où vont aller les enfants déportés à l'Est. Voilà. C'est important de le dire parce que dans le monde dans lequel on est, où on essaie de redistribuer les cartes, d'extraire Philippe Pétain du régime de Vichy, il faut redire les choses, peut-être les redire 20 fois, mais il faut les redire. Voilà.
Merci à tous les trois de vrai pour la vérité. Pardon, je vous ai coupé. Alors, Roman.
Je voulais juste ajouter que dans mes recherches d'archives de la préfecture de police, j'ai trouvé dans les dans le dossier d'épuration d'un directeur de la police nationale de la police qui s'appelait François, Jean-François, qui était présent aux fameuses réunions avec les Allemands pour décider justement de ce problème des enfants, etc. C'est lui et les deux Français qui étaient avec lui, fonctionnaires français, qui ont insisté, disent les Allemands, pour que les enfants soient déportés également. Oui, donc voilà.
Merci à méditer. Vous pouvez continuer à discuter avec les trois auteurs sur leur stand. Merci.